Cyclisme, running, trail, avec Le Pape, laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipements de sport outdoor et électro et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepape.com.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce troisième numéro d'Échappée consacré aujourd'hui à Julian Alaphilippe, double champion du monde, porteur du maillot jaune, vainqueur d'un monument. Peut-il, oui ou non, retrouver sa gloire d'antan? C'est l'une des questions que l'on posera aujourd'hui à Nicolas Pertuis, toujours fidèle au poste. Bonjour Nicolas.
Bonjour tout le monde.
Il fête aujourd'hui sa première apparition. On a le plaisir d'accueillir Gaëtan Scherrer.
Bonjour.
Voilà pour les présentations. C'est parti. Un podcast aujourd'hui consacré au Français le plus populaire du peloton. On l'a dit, son palmarès est imposant. 41 victoires, dont 6 sur le Tour. Un cador mondial à son apogée. Mais avant de s'intéresser aux coureurs, aux champions, j'aimerais que vous puissiez nous raconter qui est l'homme. Qui se cache sous ses lunettes? Qui se cache sous ce casque? Parlez-nous de son caractère, de la personne que vous avez eu l'occasion de côtoyer depuis tant d'années.
Bah, Julian Alaphilippe, c'est quelqu'un, je crois, d'assez authentique. C'est peut-être ce qui le caractérise, je veux dire, par rapport à la moyenne des coureurs qu'on peut croiser et surtout des grands leaders qu'on peut croiser dans le peloton. Quelqu'un qui a grandi à Montluçon, dans un quartier populaire, qui a des origines assez modestes. Hein. Son père, qui est décédé en 2020, était un chef d'orchestre, un musicien. Il organisait des bals musettes dans le Cher. Et je pense que Julian Alaphilippe a un peu gardé de ce truc-là, même sur le vélo. Je crois que sa grinta, enfin son attitude, son côté un peu hyperactif, il le tire un peu de tout ça. C'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé plus accessible que la moyenne, plus humble aussi sans doute. C'est quelqu'un qui se cherche en tout cas jamais d'excuses. C'est quelqu'un d'agréable à côtoyer au quotidien. C'est quelqu'un qui, même dans ses dernières années, ou quand il a parfois été un peu au fond du trou sportivement, a toujours gardé ce côté un peu accessible, ce côté rigolo. Il a beaucoup d'humour. J'ai le souvenir quand il était arrivé après Liège 2023 où il était blessé, il était malade, il avait dû aider Evenepoel sur sa grande course de prédilection. Et quand il était arrivé au bus, il avait quand même trouvé le moyen de rigoler avec tout le monde, de blaguer avec des personnes âgées qui avaient leur appartement juste au-dessus en s'excusant du remue-ménage. Enfin, c'est quelqu'un d'appréciable.
Oui, tout à fait, je rejoins Gaëtan là-dessus. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de fondamentalement humain et gentil. Je me souviens des fois où on est allé avec Jean-Luc Gattoli, qui s'occupait au journal L'Équipe de Julian avant Gaëtan. Et X fois, on est allé en Sierra Nevada sans passer par le responsable presse, parce que sinon, on ne pouvait pas y aller. Et Julian nous disait, venez, venez, vous inquiétez pas, venez la journée où je vais faire qu'une heure et demie et puis on va s'arranger. Et derrière, il se faisait taper sur les doigts, bien évidemment, par le responsable presse. Et chaque année, on a fait ça 2-3 ans d'affilée et c'était super. C'est ça, Julian, en fait, c'est quelqu'un de gentil, d'authentique, de très humain. Deux mots pour le caractériser que m'avait donné Franck, son cousin entraîneur. Rire et musique, c'est ça un peu le monde de Julian. Il y avait derrière ce côté très terre-à-terre, hein, c'est quelqu'un de très terre-à-terre qui connaît les valeurs des choses, ce besoin de réussite, je crois, social. Il m'a dit un jour, si je n'avais pas fait du vélo, de toute façon, j'aurais fait peut-être restaurateur et j'aurais ouvert 30, 20, 40, 50 restos. Je ne me serais pas satisfait d'un seul resto. Il m'a dit une autre phrase qui était aussi très, très pertinente, je trouve, et qui marque aussi le fait qu'il ait réussi, parce que je pense que socialement, avec ce qu'il a fait dans le vélo, il a quand même une réussite très personnelle. Il m'a dit un jour, on était en Sierra Nevada, et il était allé chez le coiffeur la veille qu'on arrive, parce qu'il aimait bien quand même que la barbichette soit bien taillée. Il m'a dit, t'as vu, j'ai plus le look du petit fourrin qui répare les autotamponneuses, quoi. Et il y a ça derrière Julian, il y a ce côté très humain, mais il y a aussi ce côté de vouloir réussir, et je crois que ça, on ne peut pas lui enlever. Il a réussi.
Gaëtan évoquait son papa. Alors, c'est vrai qu'il a un entourage assez sportif avec son frère, avec Franck Alaphilippe. Quel a été justement l'impact de son entourage dans son évolution à la fois en tant qu'homme, mais aussi en tant que coureur?
Son entourage, il est assez restreint. Il y a eu ses parents, il y a eu Francky, on appelle Francky dans le milieu des Alaphilippe. Fanfan, qui est quelqu'un de peu connu, mais qui est une personne plus âgée, qui est sur Saint-Amand, qui a été très important aussi pour Julian. Et puis c'est Florian Touzeau, qui a été aussi un coureur avec lequel il a beaucoup couru quand il était jeune. Ça, c'est vraiment ses repères jeunes. Des gens comme lui, finalement, des gens simples. Franck a été quand même, je pense, la base de tout, parce que Julian n'a jamais pu intégrer le pôle de Saint-Amand parce qu'il n'était pas dans une filière d'études classiques. Il fallait être dans une filière d'études classiques pour le faire. Mais la base, je pense quand même, au-delà des parents, bien évidemment, qui sont beaucoup, je pense que Franck, pour Julian, c'est comme un deuxième père.
Ouais, c'est lui un peu qui l'a mis au vélo. Hein. C'était le premier à avoir vraiment brillé. Franck, c'est son cousin, mais il est beaucoup plus âgé que lui. Je dirais d'une bonne quinzaine d'années, c'est quelque chose comme ça. Hein. 15, 20 ans peut-être plus âgé que lui. Et Julien raconte qu'il le voit gamin, qu'il allait voir ses courses et que c'est un peu lui qui l'a mis le pied à l'étrier parce que ses parents n'étaient pas c'était pas une famille férue de vélo. Son père ne connaissait pas le cyclisme. Donc c'est vraiment via Franck, qui est devenu son entraîneur dès que Julien avait 15 ans, qu'il a découvert ce milieu.
La transition est faite. Évoquons maintenant la façon dont le coureur Julien Alaphilippe s'est construit. Il y a une étape importante dans sa formation, c'est son passage dans l'équipe de l'armée de terre. Qu'est-ce que ça lui a inculqué ?
Ça lui a inculqué tout. Il a dit, c'est un peu là-bas que j'ai appris à devenir un homme. C'est une expression qu'il a utilisée. Quand il avait 18 ans, Julien Alaphilippe, il était apprenti dans un magasin de cycles, chez lui à Montluçon, chez des connaissances de son père, de sa famille. Et puis surtout, il savait pas trop à quoi allait ressembler son avenir, parce que c'était un très bon cyclocrossman. Il était vice-champion du monde en cyclocross, mais c'était pas vraiment un coureur sur route. En fait, surtout, il n'avait pas très envie d'aller sur la route. Et à 18 ans, il a eu une blessure au genou qui l'a un peu gardé éloigné des courses pendant quasiment un an. Il a quasiment fait une année blanche. Et c'est le moment où donc, cette équipe d'armée de terre s'est lancée par un manager qui la gérait déjà depuis longtemps, mais qui l'a un peu élevé au second niveau, qui est devenu une vraie équipe amateur, David Lima da Costa. Il lui a fait confiance, il lui a dit « Prends ton temps, soigne-toi, et puis on va t'aligner sur quelques courses sous les couleurs de l'armée de terre. » Et Julien Alaphilippe a accepté de le faire. Il est allé en caserne à Saint-Germain où il a vécu, il a appris à tirer au pistolet, il a appris enfin comme n'importe quel petit ado dans l'armée. Et puis à côté de ça, il a été aligné sur les courses et puis sa blessure au genou s'est estompée. Ils n'ont jamais vraiment su ce qu'il avait. Au bout de quelques mois, elle s'en est allée et puis il a commencé à gagner ses premières grandes courses sur route. Et puis pendant 2 ans, on s'est rendu compte que c'était un vrai bon coureur sur route, quoi, un vrai coursier. Alors certes hyperactif, certes qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Il disait j'étais un petit con encore à l'époque, mais il restait quand même très sérieux. C'était quelqu'un qui certes, il n'était pas au point sur la nutrition et tout, mais il faisait le boulot. Et sans ces 2 années à l'armée de terre, je ne suis pas sûr et je ne pense pas qu'il aurait percé sur la route un jour.
Ce qui est marrant avec Julien, c'est qu'à l'armée de terre, quand il m'en a parlé un jour, bon, forcément, tout ce que Gaëtan dit est juste, hein, forcément, mais ce qu'il a retenu, c'était qu'il était capable de faire 1000 pompes. Quoi. Non, mais derrière lui, c'est juste incroyable de faire 1000 pompes. Et c'est aussi ça, le coureur Julien Alaphilippe, le puncher, il est capable de faire 1000 pompes. Et il m'a dit, ça par contre, tu ne l'écris pas, hein, parce que je n'ai pas envie qu'on pense que j'ai le boulard, tu vois. Donc c'est ça aussi, Julien. On retrouve tout en fait. Le puncher coureur, le talent, parce que faire 1000 pompes. Enfin, je sais pas si quelqu'un a essayé ici.
Jamais, moi, fait, jamais tenté.
Quand j'arrive à l'armée, quand j'arrivais à 50 déjà, c'était très bien. Mais une chose importante quand même qu'il faut notifier dans l'évolution et le passage de Julien de l'armée de terre à la réserve de la Quick-Step, il y a un homme de l'ombre dont on parle jamais dans le cyclisme qui s'appelle Johan Molly, qui est le père de Kenny Molly. Il a toujours travaillé pour Patrick Lefebvre et nous, à l'époque, à Vélo Magazine, on avait Noël Nili qui s'occupait des jeunes. On a une rubrique jeune à Vélo Magazine. Johan Molly, tous les mois, appelait Noël. J'étais là et quand il a appelé Noël, et Noël lui a dit, tu sais, il y a un jeune qui marche super bien. Il faut vraiment que tu en parles à Patrick. Il s'appelle Julien Alaphilippe. Alors, je ne sais pas si c'est parti de là, mais en tout cas, je sais que Noël a fait passer plus d'un coureur dans la réserve de la Quick-Step et dans d'autres équipes d'ailleurs. Et je pense que ça a joué dans le fait que Julien arrive dans l'équipe réserve de Patrick Lefebvre. Mais c'était un destin, je pense qu'il y a eu ça, mais ça serait arrivé de toute manière, parce que le coureur est tellement talentueux et a très vite marché, qu'il y avait forcément un destin pour Julien à très haut niveau.
En tout cas, c'est vrai que c'est Molly qui l'a détecté, qui l'a rencontré sur des premiers cyclocross en Belgique. Et c'est surtout Molly qui fait le lien donc, avec l'équipe Quick-Step. En 2013, Alaphilippe va donc faire des tests au siège de Quick-Step, des tests d'endurance. Ses résultats sont assez phénoménaux et donc l'équipe Quick-Step décide de le mettre dans son équipe réserve. Été 2012, par contre, pardon. Il fait les tests et donc 2013, il est dans l'équipe réserve pour sa première saison. Et surtout, ce qui est rigolo à ce moment-là, c'est un peu le grand débat, c'était pourquoi est-ce que les équipes françaises n'ont pas recruté Julien Alaphilippe à ce moment-là. Moi, je me souviens qu'un jour, on m'avait dit qu'effectivement, personne ne s'était penché sur lui, donc je l'avais écrit. Et le lendemain, je pense que j'ai eu la moitié des managers des équipes françaises qui m'ont appelé en disant « c'est n'importe quoi, évidemment qu'on avait fait une offre pour Julien Alaphilippe, on était dessus ». Donc, j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, parce que David Lima da Costa, donc le manager de l'équipe de l'armée de terre, me dit « personne n'en voulait ». Il y avait une équipe qui en voulait à l'époque, une équipe française, c'était Véranda Rideau, mais qui a mis la clé sous la porte dans la foulée. Et il a dit « sinon, tout le monde le voyait comme un bon cyclocrossman, mais sans doute pas un coureur sur route ». Et il a dit, bah, tant pis, moi je l'envoie en Belgique.
Il y a une chose qui est importante à notifier aussi par rapport à l'armée de terre, c'est le fait que, et pour Julien, psychologiquement, ça a été très important, c'est qu'il avait une solde. C'est-à-dire que pour la première fois de sa vie, elle n'était pas grosse la solde, hein, solde militaire, il gagnait de l'argent tous les mois avec le vélo. Et ça, pour lui, ça a été de constructeur et le début de beaucoup de choses et de sa construction psychologique et la représentation de ce qu'il était par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport à une réussite sociale. Et ça, ça a été très important psychologiquement pour lui.
Nicolas, vous parliez de destin, de destinée pour Julien Alaphilippe. Justement, c'était un coureur destiné au sommet ou est-ce qu'il a complètement dépassé les attentes ?
Moi, je pense qu'il a dépassé les attentes. Il faut lui poser la question à lui, hein, de ce qu'il attendait. Mais je pense que deux fois champion du monde, trois fois la flèche. Forcément, aujourd'hui, on pourrait se dire qu'il aurait pu gagner plus de courses. Mais quand on reprend le Julien Alaphilippe à l'armée de terre avec ses problèmes de genoux, je pense que oui, il a dépassé ses attentes, en tout cas à lui.
Quel a été l'impact du Tour de France 2019 pour Julien Alaphilippe dans son développement ? Est-ce que cette année-là, il prend conscience de ses moyens ? Est-ce qu'il acquiert également de la confiance supplémentaire ?
Je pense qu'il avait, il avait déjà conscience de ses moyens à ce moment-là, c'est sûr. Quand il fait le Tour 2019, il a déjà gagné l'Estrade Bianche, Milan-San Remo, il a plusieurs flèches wallonnes, il a aussi fait déjà deux de Liège. Enfin, il était certes conscient que c'était un très très grand coureur de classique, ça pouvait être un type qui gagnait des monuments un peu taillés pour lui. Après, c'est vrai que le Tour de France, c'est l'étape au-dessus. Après, c'est une course de trois semaines. Là, il jouait le général, il a eu le maillot jaune jusqu'à l'avant-dernière journée. Donc oui, ça a été une révélation dans le sens où c'est un coureur aussi remuant et aussi incapable d'être sage comme doivent l'être les coureurs de classement généraux sur les grands tours. Il a montré qu'il avait les qualités pour passer le Tour Malais avec les favoris, avec le maillot jaune sur les épaules, au lendemain d'un chrono gagné devant tous les meilleurs rouleurs du monde. Enfin, il était en état de grâce là, pendant tout cet été-là. Maintenant, ça n'a jamais été un déclic dans le sens où derrière il s'est dit « Ok, maintenant je peux gagner des grands tours, je pense même je peux viser le général des grandes courses d'une semaine pour grimpeur ». Jamais il s'est mis dans ce truc-là. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'il n'a jamais protesté contre l'annulation l'avant-dernière étape, c'est la 19e étape, où les temps ont été arrêtés au sommet de l'Isran à cause de l'orage. Il a toujours dit que sans ça, sans doute que Bernal aurait creusé et qu'il aurait perdu le maillot jaune. Il ne s'est jamais mis dans une posture de type qui... Parce que j'ai fait 5e cette année-là du Tour de France et que je suis sans doute passé tout près de l'avoir gagné, je suis un coureur de grand tour. Il est toujours, entre guillemets, resté à sa place. Et je crois qu'il a d'ailleurs été un peu irrité derrière qu'on puisse imaginer que, à chaque fois, en fait, quand il commençait le tour, on lui demandait jusqu'à quand vous allez garder le maillot jaune. Il n'est pas fait pour ça, Julien. C'est pas le cyclisme qu'il aime. Mais oui, évidemment, ça a été un cap énorme dans sa carrière.
Il faut juste comprendre que Julien est incapable de se projeter à plus de 3 semaines. C'est une réalité. C'est-à-dire que. Les plans d'entraînement sur 6 mois pour préparer un grand tour, c'est pas Julien Alaphilippe, quoi. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui. Il devait partir en altitude, non, finalement. Et après, il devait aller retourner en Andorre, non, il était en Belgique. Puis là, maintenant, il fait le Tour de Romandie. Il n'est pas dans un moule de coureur de grand tour. C'est sa nature profonde. Il est comme ça. C'est tout feu, tout flamme. Ça a toujours été tout feu, tout flamme avec Julien. Par contre, là où il a été très bon, je trouve, par rapport aux autres, c'est qu'il a su courir contre nature. Je veux dire, il a gagné Milan-San Remo et la Flèche Wallonne, qui sont des courses où il faut avoir une cartouche. Le mur de Huy pour la Flèche Wallonne et le Poggio pour Milan-San Remo. Et un sprint en plus pour Milan-San Remo, ça fait 2 cartouches. Et ça, il a couru contre nature pour gagner ces courses-là. Et on ne se rend pas compte de l'effort psychologique que ça a été pour lui, ça. C'est juste phénoménal d'avoir réussi à faire ça. Parce que quand on connaît le Julien Alaphilippe de la vie de tous les jours, quand on est en reportage avec lui... C'est quelqu'un, je me rappelle que moi j'avais été faire un sujet avec lui en 2016, il vous parle mais il chante en même temps. Quoi. Ça part à droite, ça part à gauche, sur son vélo c'est dans tous les sens. C'est ça Julien Alaphilippe, c'est quelqu'un qui chante tout le temps d'ailleurs, il chante tout le temps. Donc les grands tours pour Julien Alaphilippe, effectivement ça n'a jamais été une priorité, mais je sais que pour avoir partagé des moments avec lui en Sierra Nevada en 2021, avant le Tour 2021, il espérait beaucoup du Tour 2021 et ça a été un échec total. Et à partir de là je pense que c'était terminé, mais... Effectivement, il n'y a jamais eu de vraie préparation pour devenir un coureur de grand tour. Jamais. Et le Tour 2019 est un peu à l'image du Tour de Vauclair en 2011. C'est-à-dire, c'est une espèce de truc dont on ne sait pas comment ça peut arriver, mais ça arrive parce que le coureur est dans une forme terrible. Mais Julien Alaphilippe, ça reste un puncher et ça restera un puncher.
Depuis ce Tour de France 2019, il y a donc 2 sacres mondiaux et un lent déclin depuis 2021. Quel est pour vous le facteur numéro 1 de ce déclassement ?
Les chutes, et notamment une, celle qui survient à Liège en 2022. C'est encore le moment où il attaque cette classique, la doyenne, en tant que favori. Il tourne autour depuis de très nombreuses années. Il a le maillot de champion du monde sur les épaules, vu qu'il a été sacré fin 2021. À ce moment-là, il sort déjà d'une grosse chute, il fait un gros soleil sur les Strade Bianche pour lancer sa saison. il s'en remet, il fait Liège-Bastogne-Liège, et c'est donc cette fameuse chute à plus de 70 km/h qui l'envoie taper un arbre. Donc il a hémopneumothorax, deux côtes et une omoplate cassée, si je ne me trompe pas, donc il fait 3 jours à l'hôpital. Et puis surtout, en fait, ben, ça met un terme à la dynamique de sa saison, il peut plus se projeter vers le Tour, il peut plus se projeter vers la défense de son titre mondial, tout est remis en cause, tout est chamboulé. Alors on reparlera sans doute des effets physiques et de l'enchaînement des chutes qu'il a eu derrière ça, mais je crois que ça a d'abord eu aussi un impact psychologique sur lui. Dès les championnats de France, donc il fait son retour fin juin, juste avant le Tour de France, sans encore trop savoir s'il pourra y aller ou pas. Mais avant les championnats de France, déjà, il dit « quand je roule, j'ai déjà un peu plus les mains sur les freins. Je prends déjà un peu moins de risques dans les descentes. » Et même si, au fur et à mesure, je pense, des semaines, des mois, il s'est remis dans la course, on sentait qu'il y avait quand même un petit truc qui s'était cassé. Et je crois qu'au-delà de tout l'impact physique que ça a pu avoir sur lui, tout, en termes de blessures, et puis, je crois que c'est surtout dans la tête que ça lui a fait mal. Il n'a plus jamais été le même chien fou qu'on a vu, qu'on voyait avant, après cette chute.
Je pense que les chutes ont accéléré son déclin parce que je crois que ça avait commencé avant. Fin 2019, il est Vélodor mondial, hein, fin 2019, c'est-à-dire qu'il fait 12 victoires, grosse saison. Je lui dis à l'interview, Julien, j'ai remarqué quand même que ton explosivité, déjà, c'est moins bien, quoi. Le mur de 8 est à l'image de ce qu'a été Julien Alaphilippe. 2018, il surdomine tout le monde sur le mur de 8. 2019, c'est déjà plus difficile. 2021, c'est très compliqué quand il gagne. C'est un miracle d'ailleurs qu'il gagne en 2021. Et quand on décrypte son explosivité en mur de 8, déjà, on était à des cadences de pédalage beaucoup, beaucoup moindres. Ses sprints étaient plus en force. Sa force, son explosivité, déjà, fin 2019, moi je lui dis, il acquiesce, mais ça fonctionne puisqu'il gagne beaucoup de courses. Franck, derrière, est plutôt OK. Franck, son entraîneur, on en parle souvent. Je regarde beaucoup ça, moi, ces choses-là. 2020, en plus, il y a la chute fin d'année sur le Tour des Flandres. Il se casse le poignet. Ça veut dire que tout l'hiver, il ne peut pas travailler cette explosivité. 2022, aucun cycle d'entraînement terminé. Il ne peut pas travailler cette explosivité parce que cette explosivité, il peut la travailler que quand il est en fin de cycle avec le socle d'endurance pour le faire. Donc, on a 2020, pratiquement tout l'hiver, et 2021, 2022, où il ne peut pas travailler cette explosivité en plus. Donc, on a un Julien qui régresse sur cette qualité-là. J'ai posé la question à Franck il y a 2 jours. J'ai eu au téléphone, il en est où avec ça? Il m'a dit, écoute, c'est mieux que début 2023, mais c'est moins bien qu'avant. Voilà. Et encore là, on retrouve le Julien qui dit les choses. Les coureurs qui font des performances moindres ont tous les réflexes aujourd'hui. Ouais, mais mes puissances, elles sont meilleures qu'avant. Tous les coureurs disent ça aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une excuse ou pas, mais tous les coureurs disent ça. Lui, il ne dit pas ça. Aujourd'hui, on a un Julien Alaphilippe en début 2024 qui est peut-être meilleur qu'en 2023. Mais il est moins fort qu'en 2021, 2020 et 2019, 2018.
Ça veut dire que l'avènement des nouveaux champions, Pogacar, Van Der Poel, qui ont remporté 8 des derniers monuments, est à pondérer.
Forcément, mais il ne faut pas voir ça. Je veux dire, Julien, aujourd'hui, quand est-ce qu'il a joué la victoire dans un monument de 6 heures? Je retire mes lances en Remo, parce que Julien, il pue le cyclisme, il sait courir au millimètre. Il peut être dans le podium avec les meilleurs quand on sait courir comme ce mec sait courir. Il pue le cyclisme, Julien, il sait faire. Mais dans un final de Tour des Flandres, dans un final de Liège, la dernière fois on l'a vu, pour la gagne sur ce type de course, c'est le 2021, Lombardie est champion du monde. C'est la dernière fois qu'on l'a vu pour jouer la gagne sur ce type de course-là. Moi, j'ai l'impression d'avoir un coureur qui est vide. C'est un coureur qui a une batterie, qui a des qualités qu'il a toujours, qu'il a de temps en temps. Il gagne toujours des courses. Hein. Il a gagné 2 courses l'année dernière. Il en gagnera sûrement cette année. Mais je vois un coureur qui est vide, c'est-à-dire une batterie fatiguée, un mec qui est fatigué, usé, et qui n'arrive pas, justement, dans cette 6e heure, sur les grandes courses, à s'exprimer parce qu'il est usé. Physiquement peut-être, mais aussi psychologiquement, parce que il a eu une vie compliquée, il n'a pas une vie simple comme tout le monde au début, maintenant aussi, je pense que ce n'est pas simple pour beaucoup de choses. Et je pense qu'il ne faut pas enlever ça dans ce qu'on appelle peut-être le déclin, moi je n'appelle pas ça le déclin, j'appelle aujourd'hui que c'est un coureur simplement différent de ce qu'il était avant, parce que encore une fois, je le dis, il gagnera encore des courses.
On ne peut pas s'empêcher de remarquer que c'est à partir du moment où il a cette chute, notamment sur le Tour des Flandres, que démarre ce déclin. Quoi. Je pense qu'avant, il n'y a aucun moment où on s'est dit que Julien Alaphilippe était arrivé sur une course où il n'était pas, à son niveau. Quoi.
2020, sur le Tour de France, il gagne cette première étape, et après, il n'est plus au niveau de 2019. Certes, il y a eu le décès de son père juste avant, ça aussi, c'est un truc important. Le décès de son père, c'est juste un homme, Julien Alaphilippe, qui a un sac dans le dos. Et dès qu'il y a un truc perso, ben on rajoute un truc dans le sac. C'est la vie de chacun. C'est quelqu'un de très sensible. Et je pense que ce genre de choses impacte sur son vélo. 2020, il arrive à gagner cette étape en début de tour à Nice. C'est juste extraordinaire parce que son père est mort le jour où le tour devait démarrer en 2020. Il y a eu le Covid. Et lui, il gagne la 2e ou 3e étape.
La 2e.
La 2e. Et on ne se rend pas compte, il ne voulait pas y aller autour de 2020, Julien. Ça a été un effort psychologique énorme d'y aller et de gagner ça, c'est juste phénoménal. Ça démontre aussi la rage qu'il a, parce que c'est un mec qui a la rage, hein, Julien. C'est un coureur, c'est un puncher, donc le puncher, il l'a dit lui-même, hein, c'est quelqu'un qui donne plus peut-être sur le moment que les autres, mais ça reste un puncher qui a besoin de récupérer beaucoup plus que les autres, beaucoup plus que les coureurs de grand tour. Et je pense que c'est pareil dans sa vie de tous les jours, simplement.
D'ailleurs, il suit exactement le même schéma sur le Tour 2021, hein, où son fils vient de naître. Il va sur le Tour, il gagne la première étape de manière exceptionnelle à Landerneau. Et puis derrière, en fait, la batterie est vidée et puis on ne le voit plus du Tour de France. Enfin, il part dans les échappées, mais il est fini, quoi. Il avait tout donné.
Toujours sur cet aspect psychologique, l'environnement de la Soudal Quick-Step est-elle devenue néfaste? Je pense évidemment à ces sorties récurrentes de Patrick Lefebvre à son encontre.
Bah forcément, quand on entend votre patron dire des choses qui ne sont pas forcément bien de vous, ça a un impact également, ça s'ajoute au reste. Après, je suis toujours étonné des sorties médiatiques de Patrick Lefebvre parce qu'il l'a fait signer Julien juste avant sa victoire sur la Flèche Wallonne 2021, si je ne me trompe pas. Il l'a pris, il savait à quel niveau physique il était. Si lui n'avait pas vu qu'il y avait un début de déclin, après, c'est toujours, on peut toujours espérer, mais c'était palpable quand même. Mais Julien était encore champion du monde. C'est lui qui a mis le montant sur la feuille du contrat. Donc, la seule personne responsable de ce contrat, c'est Patrick Lefebvre, qui ferme sa bouche, quoi. Non, mais moi, je n'ai jamais compris ça. Alors, c'est son mode de fonctionnement, hein. Ça a toujours fonctionné comme ça dans cette équipe. Les médias, et nous en premier, on a mis bien en avant la Wolfpack pendant des années. Aujourd'hui, on se rend compte que cette équipe, finalement, c'est peut-être pas ce qu'on croyait, mais il fallait quand même aussi avoir de la merde dans les yeux pour pas le voir à l'époque. Je suis désolé, mais oui, ça a un impact sur Julien. Mais Julien, encore une fois, et là, on le retrouve, le vrai Julien, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a remis de l'huile sur le feu, quoi. Jamais. Jamais.
Très discret. Très discret.
Mais parce que c'est son mode de fonctionnement. Julien n'est pas rancunier. C'est quelqu'un qui est comme ça. D'ailleurs, Julien, il a mis beaucoup de temps à apprendre à dire non. Pour lui, apprendre à dire non, c'était quelque chose qui n'était pas naturel. À un moment, il m'a dit, en 2019, je ne peux plus signer les autographes, mais dire non à quelqu'un, pour moi, c'est tellement contre nature, ça me rend mal à l'aise, quoi. Donc il y a ça dans Julien. Jamais il a remis de l'huile sur le feu avec Patrick Lefebvre, et il a bien fait. Franchement, c'est tout à son honneur.
C'est sûr que c'est difficile de voir autre chose dans les propos répétés de Patrick Lefebvre que du remords de l'avoir prolongé trop tôt et surtout de manière trop importante en termes financiers. Lefebvre, c'est quand même un manager qui voit, je crois, avant des coureurs, des grosses liasses d'argent. Enfin, c'est quelqu'un qui voit vraiment tout au prisme des contrats, qui répète souvent que quand il a un de ses coureurs qui gagne une énorme course, sa première problématique, c'est maintenant, il va falloir que je le re-signe, à combien je vais le re-signer. Enfin, c'est tout de suite ces problématiques-là qui entrent en compte. Maintenant, et juste pour terminer sur les attaques répétées de Lefebvre, je crois qu'il y a aussi un gros jeu médiatique néfaste. Je crois que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que, alors certes, c'est lui qui a commencé à mettre la pièce et à mettre de l'huile sur le feu. Mais je crois qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus un journaliste qui rencontre Patrick Lefebvre en face à face, voire dans des poules après les courses, qui ne lui pose pas la question sur Julien Alaphilippe. Et en fait, Lefebvre étant Lefebvre, il est incapable d'apaiser la chose et juste de dire « je ne répondrai pas à cette question ». Donc il remet une pièce, c'est une phrase différente, c'est un propos différent, c'est repris partout et c'est reparti. Et en fait, malheureusement, ça c'est le mauvais jeu d'un feuilletonnage d'une affaire un peu extra-sportive qui a pris des mauvais tours, parce que je pense que ça a atteint un peu son paroxysme là, début d'année. Franchement, on peut que s'en attrister.
Si on s'intéresse aux perspectives, au futur de Julien Alaphilippe, est-ce que vous considérez que ce déclassement est imparable? Si oui, qu'espérer pour sa fin de carrière? Et sinon, quel levier peut-il activer pour essayer de retrouver les sommets?
Imparable, non. En tout cas, si c'est dans le sens définitif, je pense pas. On l'a vu, il est encore capable d'être performant. L'an passé, il sort, alors certes, on va me dire que ce n'est qu'une étape du Dauphiné, mais il sort une étape du Dauphiné un peu sortie de nulle part. On voit qu'il n'a plus la confiance qu'il a avant. On le voit dans la manière dont il a couru le dernier tour. Certes à bloc, mais bon, tu parlais tout à l'heure d'un coureur qui courait au millimètre. Là, on peut pas parler d'un coureur qui va au millimètre, quoi. C'est il bourrine, quoi. Il se donne. Après, c'est un coureur aussi qui marche au plaisir. Hein. Il voit très bien que c'est le coureur le plus acclamé au bord des routes, donc il se donne. Enfin, terminé, non. Enfin, cette année, il est encore là sur Milan-San Remo, qui court du coup avec une fracture. On l'a appris récemment, ce qui peut sembler assez lunaire, mais il est toujours là. Si on fait le point sur le nombre de courses qu'il a couru à 100%, c'est-à-dire sans avoir chuté dans le mois précédent, sans avoir eu une maladie, je pense qu'on les compte sur les doigts des deux mains, quoi. C'est extrêmement peu. Je pense que ce qu'on verra plus, c'est un Julien Alaphilippe qui brille sur les courses un peu en dehors de son domaine de compétences. On a cru à un moment qu'il pouvait gagner le Tour des Flandres, qu'il allait pouvoir peut-être performer sur Paris-Roubaix, il ne l'a jamais fait, mais bon, on l'en pensait capable. Je pense que ça, il faut l'oublier. Je ne suis pas sûr non plus qu'il soit capable de regagner une course pour pur puncher, type la flèche sur laquelle il a régné si souvent. Mais je pense que c'est encore quelqu'un qui est capable de faire de gros résultats, oui.
J'ai pas une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer pour lui, mais tant qu'il a Franck à ses côtés... Bon, Franck a été lourdé, hein, a été viré cet hiver de la Quick-Step. D'ailleurs, très tard dans l'année, heureusement, Franck a retrouvé son travail à la mairie de Saint-Amand. Mais je pense que Julien et Franck, ils savent comment marcher. Ils ont les repères pour ça. Le gros avantage de Julien psychologiquement, c'est qu'il est capable de, on l'a vu par le passé, d'être moyen sur une Amstel et d'être très bon sur la Flèche et Liège quelques jours après. Mais ça, c'est aussi les qualités d'un puncher. Donc, il faut qu'il garde le fil, qu'il reste dans ce qu'il sait faire. Et puis, des courses, il en gagnera. Après, des classiques, je lui souhaite, mais j'en doute, mais je lui souhaite réellement. Tant qu'il aura ce feu en lui de vouloir gagner des courses, parce que c'est ça juste, hein, Julien, c'est le vélo, c'est pour gagner des courses, c'est pas pour gagner de l'argent. Je pense qu'il y a de l'argent, il en a gagné suffisamment aujourd'hui. Je lui souhaite de gagner. Comment ? Bah, en faisant ce qu'il a toujours fait. Voilà, simplement. Je crois qu'il n'y a pas de remède miracle concernant. Sûrement une nouvelle équipe l'année prochaine, ça, on est tous sur la quête.
Un retour en France potentiellement.
Mais ça n'impactera rien sur ses performances. Il est un entraîneur, il ne va pas changer sa méthode d'entraînement, ce n'est pas le garçon à faire ça. Il fera ce qu'il a toujours fait, ça marchera tant mieux, ça ne marchera pas, tant pis.
Ma dernière question, en guise d'ouverture, quelle trace laissera Julien Alaphilippe à la fois dans le cyclisme français mais également au niveau international? À quel point vous le mettez haut dans la hiérarchie du 21e siècle?
Bah, réussir à être champion du monde deux fois d'affilée, je pense qu'il y a peu de coureurs qui l'ont fait. En tout cas, moi, je pense que sa carrière, il l'a réussi. Alors, nous, journalistes, on veut toujours plus. Hein, à un moment, voilà, comme on a eu avec Thomas Vauclair à un moment, les gens ont imaginé qu'il pouvait éventuellement gagner un Tour de France. Non, mais moi, je trouve que sa carrière est plutôt accomplie. C'est dommage juste qu'il n'ait pas gagné Liège. Voilà, je pense que l'année où Jungels gagne... Jungels, qui était aussi un de ses coéquipiers à la Quick-Step, je pense que cette année-là, il a raté le coche. Mais voilà, il a joué son rôle de coéquipier parce que c'est un mec gentil. Il l'a fait comme il devait le faire. Il n'a rien à se reprocher. Moi, franchement, aucun regret, que du respect pour sa carrière. Et je lui souhaite juste de terminer en beauté et de ne pas terminer sa carrière en étant plus du tout compétitif. Voilà, c'est la seule chose que je lui souhaite.
Oui, je suis d'accord. Liège, c'est vraiment le petit manque aujourd'hui qu'il y a, et je pense qu'il en a conscience, hein, c'est celle autour de laquelle il tournait le plus. Non, dans la hiérarchie, dans l'histoire des coureurs français, l'équipe avait fait un sondage au lendemain de son deuxième titre mondial, il était dans les 10, et je pense que ça, on pourra pas lui enlever. C'est pas parce qu'on n'a pas gagné le Tour qu'on mérite pas ça. Je veux dire, Julien Alaphilippe, on savait depuis le départ que c'était un grand coureur de classique, et je crois qu'il est devenu l'un des plus grands coureurs de classique de l'histoire du cyclisme français. Si on regarde sur les autres monuments, je pense que la Lombardie, c'était trop dur. Peut-être qu'il y a un tout petit regret sur le Tour des Flandres quand on voit le niveau stratosphérique qu'il avait 2019, 2020, 2021. Lui, il continue à y aller. Il continue toujours à avoir les marmots. Il dit, quand je repense aux Flandres, j'ai la rage. Enfin, lui, il y va toujours avec le sentiment de pouvoir gagner. J'espère que ce sentiment durera aussi longtemps parce que c'est ce qui lui permet aussi d'être spectaculaire. Mais oui... Faut pas que ces deux dernières années où clairement il est plus au niveau espéré ternissent son bilan général parce qu'il est exceptionnel.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Gaëtan Scherrer, merci Nicolas Pertuis et merci à Léa Léostic à l'enregistrement. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Échappée. Et entre-temps, vous pouvez suivre tous nos podcasts sur le site l'équipe.fr. À bientôt.